Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue à la première de Langue de Prune. Je me présente Azilis. Et nous serons aujourd'hui accompagnés d'Axel.
Bonjour.
Guillaume.
Salut.
Et Louis à la régie. Afin de commencer tranquillement, nous nous sommes réunis autour d'un sujet le moins polémique possible pour ne pas se faire taper sur les doigts. L'émission portera donc naturellement sur le langage inclusif. Alors, le langage inclusif, grande révolution linguistique ou continuité ? Effondrement de la société ou rétablissement du langage ? C'est ce que nous allons nous aventurer à observer durant la prochaine heure. Il y aura trois parties dans l'émission. Tout d'abord, un micro-trottoir pour prendre la température de l'opinion sur le langage inclusif à Nantes. Puis une histoire de la masculinisation du langage en France. Et enfin, un point sur le neutre. Ces sujets seront accompagnés de nos trois chroniques que vous retrouverez à chaque émission. La première, étymologie en folie, verra un mot être décortiqué dans sa composition, sa provenance linguistique et son histoire. La deuxième chronique, d'ici et d'ailleurs, portera sur un mot de vocabulaire régional. Et enfin la dernière, à qui la faute, essaiera de déconstruire ce qu'on considère d'habitude comme des fautes de français. Commençons par écouter quelques avis sur le sujet.
Les Français seraient devenus étrangers à leur propre langue. Un nouveau danger la menace avec l'écriture inclusive.
Péril mortel pour la langue.
Pourquoi donnerait-elle un mot spécial pour désigner la misérable poignée d'hommes qui se font prétention de gribouiller à leurs infortunes ?
J'arrive pas à comprendre que tous ces gens qui... Enfin, moi, qui suis simple citoyen lambda, c'est ce genre de choses me pourrit la vie.
Ce n'est que l'aboutissement, si vous voulez, d'une dégradation de la langue française.
Le langage inclusif, c'est quoi ?
Peut-être une manière de parler qui donne la possibilité à d'autres personnes qui incluent les autres.
Un langage nouveau.
Bon, c'est juste une manière d'inclure plus de personnes dans la façon de parler. Après, c'est juste une façon d'écrire. Je pense que c'est pas un grand débat non plus. Je pense que des fois, les gens montent trop en mayonnaise certaines choses, quoi. C'est ce que je pense de ce débat-là.
C'est tout remettre au féminin, systématiquement, ou inclure en tout cas ce qu'il y a de féminin dans un mot, une conjugaison. Voilà.
Tu penses qu'au féminin ?
Bah, enfin, faut mettre tout.
Ouais, ouais. C'est juste pas faire, quand on parle, pas avoir de spécificité, inclure tout le monde dans du langage plus générique, pas... Ouais. Pas de faire mention spéciale pour spécifier quelqu'un ou une personne.
Pas rajouter les E à la fin des mots, non. Quand c'est féminin et... Enfin, mettre au féminin avec des... Enfin, je sais pas.
Au lieu de mettre le neutre, on met masculin plus féminin avec un masculin plus le féminin, ouais, avec un E pour
le
montrer...
Le lecteur a le choix de choisir si c'est masculin pour lui ou féminin.
Il y a l'exemple avec où on met les points. Mais après, sans parler forcément des points, c'est d'essayer de prendre des tournures de phrases, selon moi, qui permettent d'inclure le plus grand nombre de personnes. Et pas des termes qui sont exclusifs.
Bah moi, je trouve que c'est un bon concept pour que ça soit égal entre le féminin et le masculin. Tout le monde est inclus et c'est chouette.
Diriez-vous plutôt Madame la ministre ? Ou Madame le ministre ?
Mais pour moi, c'est pas dérangeant. C'est une femme, elle veut qu'on l'appelle la ministre... Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci en fait. C'est juste qu'on doit s'habituer à le faire et puis ça ira, je crois.
Moi, j'utiliserai la ministre.
Moi, j'utilise le. Parce que, en fait, c'est Madame la ministre, ça fait une double féminisation.
Il y a des tas de mots comme ça qui sont utilisés des deux façons. Alors même qu'il y a une façon qui est officielle et l'autre qui ne l'est pas encore. Enfin bon, ça fait partie de... La vie de la langue française qui parfois se cherche un peu, et bon, je suppose que c'est normal.
Moi, je dirais Madame la ministre.
parce que c'est bizarre, mais je pense que nous-mêmes, on s'est auto-censuré. Parce qu'en général, on va même avoir peur de dire au féminin les choses. On est tellement habitué à la masculinité. Alors, au masculin, et à ne pas dire nous-mêmes les choses au féminin, et je pense que ça peut être intéressant. Si moi, demain, on me dit, comme le Covid qui est passé à la Covid, bah pourquoi pas Madame la Ministre, parce que c'est une femme. Je pense que c'est juste.
Moi, j'utiliserais Madame la Ministre pour que ça soit égal entre les deux.
Ouais, moi aussi j'aurais dit ça parce que on a le droit d'avoir. Enfin, le là ça désigne la femme, donc on a le droit aussi d'avoir un déterminant.
Depuis quand existe-t-il ?
Aucune idée. Enfin, c'est juste depuis qu'ils en parlent, je crois.
Ah, c'est récemment.
Je pense que ça doit être beaucoup plus ancien que ça.
Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas dire. J'aurais dit plus récemment parce que quand on regarde des reportages, même des films, d'autres choses des années. Même des années 20, années 40, années 50, 60, c'est pas typiquement inclusif, quoi.
Non.
Il y a des personnes qui ont dû déjà y penser bien avant, mais ça s'était pas répandu. Donc je dirais assez récemment, sans avoir de date précise à donner.
Moi, je pense que ça se fait depuis longtemps, mais que on cherche pas forcément à le mettre en place. Enfin, on se prend pas la tête à faire ça.
Moi, je pense que ça se fait pas depuis si longtemps que ça. Comme les métiers... Enfin, les métiers qui sont dits femmes et hommes, je pense que ça se fait pas depuis si longtemps que ça.
Il me semble que c'est assez récent. Je sais pas, 3-4 ans, il me semble, peut-être, non ?
C'est avec le mouvement d'égalité femmes-hommes, avec le mouvement qui tend à féminiser tout, à modifier la langue française, notamment. On a vu les termes matrimoine, tout ça, qui sont apparus. Ça rentre dans le même mouvement, le fait d'incorporer l'homme et la femme et l'homme dans le même... à travers un mot.
Est-ce que c'est du français correct ?
Ça veut dire quoi, correct ? Conforme aux nouvelles normes ? Si ça doit être des nouvelles normes acceptées par l'Académie française, etc., c'est un français correct. Mais dans la mesure où c'est pas le français de tout le monde, de ce point de vue-là, non, on peut pas dire que ce soit correct. Tout dépend de ce qu'on entend par le mot correct.
Moi, c'est pas ce qu'on a appris à l'école.
Oui, voilà.
On n'a pas appris à l'école, c'est venu petit à petit. Donc je sais pas.
Moi je pense pas. J'ai l'impression que c'est la société qui modifie la langue française.
Ah bah oui, moi je dirais oui, parce qu'en fait la langue elle évolue, une langue n'est pas figée, ça peut pas toujours rester la même chose. Donc effectivement oui, ça va être du langage correct. Ça va rentrer sûrement dans le langage commun.
Comment mettre un médecin au féminin ?
Bah, une médecine.
Je sais pas. Bah non, pour moi c'est une médecin aussi, mais...
J'aurais dit une médecin. Mais je sais pas. Sinon, officiellement, je sais pas quel est le bon terme approprié.
Le mot n'existe pas.
J'aurais dit une médecin.
Oui, pareil. Mais bon, on dit... Par habitude, on dit un médecin et ça passe, mais bon. Est-ce qu'il faut forcément mettre une partout pour qu'on sache que c'est bien une femme ? Après, c'est pour les professions, je sais pas, je suis assez dubitative. Mais pour moi, si je dis un médecin, ça vaut aussi bien pour une femme que pour un homme.
Moi, bon... Je pense que c'est mieux de féminiser les choses en fait. Parce que j'ai suivi une conférence par exemple sur le cerveau a-t-il un sexe, où lors de cette conférence, la conférencière expliquait que notre cerveau est conditionné par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'on va nous dire.
À quoi ça sert ?
Bon, l'utilité, c'est juste de prendre en compte un peu plus tous les genres, par exemple.
C'est à éviter les discriminations, je pense, ou... Un truc comme ça.
Déjà, et je pense aussi pour les personnes non-binaires aussi, je pense, que ça peut être pas mal. Donc les gens qui se retrouvent ni dans le féminin ni dans le masculin.
En étant politiquement correct, ça va être d'éviter de se mettre des féministes ou des extrémistes un peu à dos. Voilà. Et en étant plus terre à terre, clairement rien.
Alors je pense que c'est peut-être pour répondre à un besoin de la société de s'intéresser à tout le monde, d'inclure tout le monde, de faire participer à tout le monde, de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors si ça commence avec le langage, quelque part ça permet de transformer aussi nos mentalités, je pense.
Alors moi je me dis c'est peut-être pour l'égalité également, l'égalité des chances, parce que je me rappelle il y a beaucoup d'offres d'emploi où on va plutôt s'adresser, on cherche un employé polyvalent, où on va pas forcément inclure le féminin, et je pense que c'est peut-être aussi pour pallier à ce genre de, je veux dire un petit peu de discrimination, d'inclure vraiment que ce soit les hommes ou les femmes, qu'on va avoir ce langage.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste.
Quand on pense au langage inclusif, c'est très souvent l'image du point médian qui vient en tête. Ce petit point qui se trouve au milieu de la ligne d'écriture et qui permet de voir à la fois la forme masculine et la forme féminine d'un mot. Petit exemple. Axel et Guillaume sont installés dans le studio. Pour montrer qu'il y a à la fois un homme et une femme avec moi, parce que Axel, c'est une femme, on intercale entre le mot « installé » au singulier et le « s » du pluriel un « e » entre deux points médians. Il s'agit de la marque du féminin qui permet de ne pas oublier Axel. Mais le langage inclusif, c'est bien plus que ça. C'est une pratique qui permet d'inclure tout le monde dans ses propos. Habituellement, lorsqu'on parle de langage inclusif, on parle plus spécifiquement d'inclure tous les genres. Le français ayant tendance à mettre très en avant les hommes. Et le point médian, c'est qu'une des techniques de l'écriture inclusive. Elle permet de donner de la place aux femmes, là où l'écrit les invisibilise ordinairement. Mais à l'oral aussi, le français a tendance à oublier la moitié de la population. Le langage inclusif s'efforce donc d'utiliser la forme féminine et la forme masculine des mots, comme dans le célèbre
« Française, français »
de Charles de Gaulle. Eh oui, le langage inclusif ne date pas d'hier. Il remonte même probablement à la nuit des temps. Même s'il s'est surtout développé, et notamment à l'écrit, à partir des années 70, avec la naissance du point médian. Et le langage inclusif, c'est aussi la féminisation des noms de métiers. Chaque profession a une forme féminine. Il suffit de chercher dans l'histoire ou dans son imagination pour la trouver. Médecin, par exemple, ça peut tout à fait s'utiliser au féminin. Une médecin. Et la forme une médecine a même brièvement été employée. Pour que les formes masculines ne prennent pas toute la place, on peut aussi éviter d'utiliser le masculin et le féminin. Par exemple, on peut utiliser des tournures impersonnelles. L'examen doit être réussi, plutôt que les étudiants, étudiantes devront réussir l'examen. Il y a aussi les mots qui englobent les mots qui englobent les hommes et les femmes, qui sont très pratiques. C'est le cas de certains pluriels, comme les adultes, et de termes comme le lectorat, qu'on peut utiliser au lieu des lecteurs, lectrices. On peut aussi aller piocher dans les mots épicènes. Les mots épicènes, c'est des mots qui ont la même forme au féminin et au masculin. Il y en a des tas. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Il y a par exemple un artiste, une artiste. Il y a plusieurs noms comme ça. Un élève, une élève. Ça peut aussi marcher avec des adjectifs, comme calme, qui a un E au masculin et au féminin. Et bien sûr, s'il n'existe pas de neutre en français pour l'instant, il y a aussi des propositions sur ce que ça pourrait être, comme Axel vous le présentera tout à l'heure. Donc la langue française, elle a toujours évolué en fonction des pratiques, des idéologies, des politiques. Et elle continuera à se modifier. Le français inclusif, aujourd'hui, c'est une des formes du français parmi plein d'autres formes. Il donne lieu à plein de créations linguistiques. Au mot matrimoine, qu'on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir, ce mot-là, il montre que notre héritage culturel, il ne nous vient pas que de nos pères. Il y a aussi d'autres créations, comme par exemple les mots qui combinent la terminaison masculine et la terminaison féminine. Les auditeurices, ce sont les auditeurs et les auditrices. Donc on a beaucoup parlé d'écriture inclusive dans les médias et sur la scène politique ces derniers mois, alors même que pourtant ce n'est pas une préoccupation majeure des gens. Il y a eu de nombreuses critiques qui se basent souvent sur une méconnaissance de ce que c'est, qu'ils réduisent souvent au point médian. On lui reproche également d'être illisible. Bien sûr, il peut l'être, mais comme toute forme du français. Si on jongle habilement avec toutes les possibilités qu'il offre, on est bien loin des expressions cauchemardesques qu'on cite trop souvent pour le discréditer, comme les spectateurs, point médian, trice, point médian, s. Il s'agit pour l'instant d'un langage surtout répandu dans les milieux militants, un langage qui veut que les minorités de genre, les femmes, les personnes non-binaires notamment, soient visibles dans le langage et donc dans nos représentations. Peut-être qu'il se développera ou peut-être qu'il s'éteindra. Il est trop tôt pour le savoir, mais on peut y croire. Et donc maintenant, on va passer à notre première chronique, la première chronique de Langue de Prune.
L'étymologie en folie.
Nous allons parler de ce mot qui fut un peu polémique dernièrement, le mot « autrice ». Commençons par sa définition. Nous en avons deux. Femme à l'origine de quelque chose et femme qui a rédigé un ouvrage de littérature, de science ou d'art. L'origine et l'histoire de ce mot viennent du latin « auctor », celui qui octroie, qui fonde, et le mot « auteur » s'est d'abord rencontré sous la forme « auctur », écrivain et auteur, celui qui est à l'origine de, au XIIe siècle, avant de prendre la forme auteur, au XVIIIe siècle, selon le Trésor de la langue française. L'académicien Frédéric Vitou note qu'il était d'usage d'employer le mot « autrice » comme on le faisait du féminin d'acteur, actrice. Cela entrait en cohérence avec sa racine latine. Il fut utilisé jusqu'au début du XVIIe siècle. Ce fut aussi le cas pour « auteuresse » et « autoresse » selon le Trésor de la langue française. Bernard Circhilini précise que « autrice » était employée dans le sens de « créatrice ». On parlait par exemple d'une reine autrice de la paix. Mais lorsque la notion d'auteur féminin est apparue au XVIIe siècle, les puristes ont refusé de donner le titre d'écrivain aux femmes. Le mot « autrice » a donc été condamné et a fini par disparaître. La question n'était pas linguistique, mais sociale. Aujourd'hui, le mot « autrice » a fait son retour, comme féminin d'auteur dans le Petit Robert de 1996, puis sous une forme plus développée dans l'édition de 2003 du Petit Robert, ainsi que dans le dictionnaire Hachette et l'officiel du jeu Scrabble à partir de 2004. En 2019, l'Académie française juge qu'autrice est le féminin d'auteur dont la formation est plus satisfaisante. Et elle réhabilite le terme, souvent perçu à tort comme un néologisme, 40 ans après la recommandation de l'Office québécois de la langue française. Aujourd'hui, le gouvernement considère que la féminisation des noms de métiers doit être encouragée dans les administrations et établissements publics. Depuis le circulaire du 6 mars 1998 relative à la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres. De son côté, si l'Académie française a condamné en 2002 la plupart de ces féminisations et ne recommandait pas leur utilisation, elle adopte en 2019 le rapport « La féminisation des noms de métiers et de fonctions », énonçant qu'il n'existe aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions.
Pour digérer toutes ces nouvelles infos, on va écouter Les Étoiles de Marc Melia, Flavien Berger et Pyjama. Tendez bien l'oreille, il y a du langage inclusif là-dedans. Un petit pronom inhabituel s'y cache, saurez-vous le retrouver?
Pourquoi pas les étoiles.
Langue de prune.
Pour comprendre le langage inclusif, il faut retourner en arrière de plusieurs siècles. Et c'est Guillaume qui va vous guider dans ce voyage temporel.
Essayez de dire une femme savante, une grande femme, une femme d'affaires, une femme d'État. Autant parler d'un homme de ménage. Cette citation, issue d'un discours de 1848 du théologien Adolphe Monod sur la mission et la vie de la femme, est un parfait exemple de la masculinisation artificielle de la langue française, entamée dès le XVIIe siècle. On peut en effet remonter facilement en 1607 pour trouver les premières attaques frontales sur le féminin dans notre langue avec l'ouvrage de Charles Maupas, Grammaire Françoise, contenant des règles très certaines. L'angle d'attaque est un sujet qui remue encore aujourd'hui les mœurs, les noms de métiers ou de fonctions. Il y est écrit « Tout nom concernant office d'homme et de genre masculin et tout nom concernant la femme et féminin, de quelque terminaison qu'il soit. » On le voit bien aujourd'hui encore, ce sujet fait encore débat. Le 7 octobre, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a créé le débat à l'Assemblée nationale en refusant que le député Les Républicains, Julien Aubert, s'adresse à elle en l'appelant « Madame le ministre ».
Je demande de manière très claire à être appelée « Madame la ministre ». Si monsieur le député ne respecte pas cela, eh bien, il sera appelé « Monsieur la rapporteure ».
Cela lui a valu d'être rappelé à l'ordre par la vice-présidente de l'Assemblée, Annie Genevard. Toutefois, là où cette question fait hautement débat aujourd'hui, une application aussi zélée de cette règle grammaticale était bien étrangère aux contemporains de Charles Maupas. Si le genre de la fonction devait être désigné selon la personne qui la pratique, il était encore inimaginable de l'appliquer en ignorant le genre de la personne qui l'exerce. Maupas propose même différentes féminisations de certaines fonctions. Bateleur, batteleuse, défendeur, défendresse, etc. Les premières attaques de ces principes, alors inaliénables, ne commenceront réellement qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, sous l'influence de l'Académie française. Pour en parler, justement, de l'Académie française, il faut la présenter comme il se doit. L'Académie a été créée en 1634 par le cardinal Richelieu et cette mission lui fut donnée par Louis XIII. Donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Composée de 40 membres maximum, son rôle est donc de contrôler, entre autres, la langue française en réalisant un dictionnaire. L'une des premières offensives contre la féminisation des métiers fut, peut-être l'aurez-vous deviné, la profession d'autrice. Eh oui, ce mot dont je vous ai expliqué l'étymologie juste avant fut le point de départ de l'institutionnalisation de la masculinisation du français. En effet, l'académicien Chapelain écrivit en 1639, dans une de ses lettres, « Il n'y a rien de si dégoûtant que de s'ériger en écrivaine ». Bien que le terme continue d'être utilisé pour quelques décennies, les attaques contre son incorrection nouvellement trouvée se multiplièrent. La querelle se clôtura définitivement avec la quatrième édition du Dictionnaire de l'Académie en 1762. Pour une femme écrivaine, on dit qu'elle est l'auteur d'un tel livre, d'un tel ouvrage. À la fin de la définition du mot « auteur ». Ce mot fut loin d'être la seule attaque de ce genre. Diderot désigna, dans son encyclopédie en 1753, le mot « citoyen » comme uniquement masculin. Louis-Sébastien Mercier décrit en 1801 un débat désignant le mot « amatrice » comme un barbarisme. Une autre attaque fameuse de l'Académie française fut celle sur les accords de proximité. En effet, auparavant, les adjectifs et participes passés avec le genre du dernier sujet prononcé. On pouvait dire par exemple « ce plat et cette boisson sont délicieuses ». En 1647, l'académicien Vaugelas reprend l'offensive exprimée plus tôt par Malherbe, qui déplorait comme un écueil l'accord de proximité, en prenant en exemple la phrase « ce peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges ». Vaugelas théorise plus précisément cette critique en expliquant que le genre masculin, étant plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Il fit toutefois preuve d'un minimum de retenue en avant préférant l'usage de l'accord de proximité puisque moins choquant à l'oreille. Mais les fondations de la mort de l'accord de proximité sont posées. C'est ainsi que de nombreux grammairiens exprimèrent peu ou prou la même opinion que Vaugelas, cette fameuse règle que nous connaissons tous aujourd'hui, qui veut que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, bien que cela sonne mal à l'oreille. Après tout ce que nous venons de dire, nous comprenons qu'il n'est pas question, avec le langage inclusif, de féminiser la langue française, mais bien de la démasculiniser. Il s'agit aussi de se séparer d'un élitisme certain de la langue, séparant d'une part un bon et un mauvais français, en suivant des règles arbitraires. Et heureusement, grandement remises en cause aujourd'hui, l'Académie française elle-même commence à ployer. Comme je l'ai dit, avec sa reconnaissance, la féminisation des noms de métiers et de fonctions en 2019. Mais il reste encore un long chemin à parcourir.
Petite parenthèse avec la chronique d'Axel. Elle va nous parler des différentes manières d'appeler la serpillière selon les régions. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une parenthèse, parce que bon, la serpillière, c'est une histoire de bonne femme.
D'ici et d'ailleurs.
Dans D'ici d'ailleurs, nous allons en fait voyager avec la langue française, explorer ses diversités régionales. C'est un peu une petite pause café, pain au chocolat ou chocolatine dans notre émission Langue de Prune. Vous êtes peut-être déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui était originaire d'une autre région ou d'un autre département et de soudainement découvrir que tout le monde ne dit pas les mêmes mots que vous. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je parlais avec un ami qui est picard et qui m'a parlé de passer la voie 5. La quoi ? La voie 5, c'est donc le mot que nous utilisons, enfin c'est ce que nous appelons ici la serpillière, à Nantes, aux alentours. C'est un objet très banal, on ne parle pas vraiment en dehors de notre foyer, c'est pas quelque chose qu'on évoque à la terrasse d'un café avec ses amis, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tellement de variations à ce mot. Et quand je dis tellement de variations, j'exagère pas, la liste est très longue, vous n'êtes pas prêts. Le mot serpillière, donc, c'est, comme je disais, le mot le plus répandu. C'est celui qu'on va retrouver dans les dictionnaires, par exemple sur Wikipédia aussi. Mais en fait, ce mot-là, son origine, son étymologie sont un peu incertains. Par exemple, Littré, il parle du mot serapellinae, qui désignait au Moyen-Âge des vieux habits, des vieilles peaux, des tissus sans valeur. J'ai parlé de la wasingue. Ça s'appelle W-A-2-S-I-N-G-U-E. Et c'est un mot donc utilisé en Picardie et de manière plus générale dans le nord de la France. C'est un mot d'origine germanique. Ses racines sont similaires à des mots anglais comme par exemple water ou wash. Donc sous cet angle-là, ça paraît un peu moins farfelu comme mot. Parce que c'est vrai qu'après, tous les autres mots, dans les mots utilisés pour désigner cette chose-là, il y en a beaucoup qui sont très terre à terre. Par exemple, la toile qui est passée par les Normands ou la pièce dans le sud-est de la France. Il y a le torchon, dans le nord aussi, plus du côté de nos voisins belges. Mais comme je vous disais, il y en a vraiment beaucoup. Si j'essayais de tous les citer, ça prendrait toute la fin de l'émission. Donc pour vous en donner quelques-uns rapidement, il y a la bâche, la cince, la gueille, le patin, la panosse, la patte. Et les Québécois utilisent aussi la mop, donc c'est l'utilisation du mot anglais mop, ou alors aussi la vadrouille. Il y a un linguiste, Mathieu Avanzi, qui est maître de conférence à la Sorbonne, qui a fait en 2016 une étude sur ce sujet-là auprès de 12 000 francophones en leur demandant quels mots ils utilisaient pour désigner cet objet-là. Et il en a tiré une carte qui représente la répartition de tous ces mots-là. En cherchant son nom, donc Avanzi, A-V-A-N-Z-I, vous allez, en cherchant son nom, donc oui, avec le mot serpillière, vous allez retrouver du coup la carte. Je vous conseille de jeter un œil parce que c'est assez intéressant. Voilà.
Ça me donnerait presque envie de passer la serpillière, mais quand même pas. Alors du coup, pour la suite, étant donné que le langage inclusif, c'est une forme de lutte, c'est une lutte féministe, une lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+, bah, c'est peut-être l'occasion d'écouter le morceau nantais « Under the Same Flag » de Degree.
Do you hear that sound? Voices all around, saying some pretty words, spreading beautiful colors down the street, usually gray. With some clouds ruining your days, we are now walking, my friend, to find out the end of that maze. Under the same flag, a body all night, we found missing lights that will shine on our bright against the same guys. We're only
go backwards. We keep on dancing, keep on fighting for our rights. Smiles I drew on the pairs of shoes of the dancers, losing their selves on Saturday night. But I still believe in love. It's sad to know the son of getting shots, and I'm not blaming Olin though. He's a good guy after all. He holds their soul for sure to a pretty little church. And now call the wedding bells. It's not too late. They still wanna dance. Our voice is low and Olin though's not gone. You know my show must go on.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Aujourd'hui, on parle de langage inclusif. On a déjà parlé du masculin, du féminin. Donc maintenant, on va passer un petit peu de temps sur le neutre. Axel, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Dans notre belle et si complexe langue française, on a beaucoup de choses qui sont plus ou moins utiles. On n'a pas de genre neutre. Une des facettes du langage inclusif déjà utilisé dans plusieurs langues, déjà présent dans plusieurs langues, qui paraît du coup un peu radical, compliqué à mettre en place pour nous dans le français. Mais pour commencer, on va déjà définir un peu de quoi nous allons parler. Le genre neutre, c'est un genre utilisé pour désigner tout ce qui ne peut pas être classé exclusivement de genre masculin ou féminin. Ça a l'air simple, mais en fait, ça comprend plusieurs catégories. Déjà, il y a le neutre de structure impersonnelle pour désigner quelque chose qui n'est pas une personne. Dans notre langue, tous les mots sont catégorisés masculin ou féminin, même les choses inertes. On va dire par exemple une table, une chaise, un manteau, un micro, etc. Là, par exemple, un contre-exemple, dans la langue anglaise, ils vont avoir un pronom, it, qui va désigner tout ce qui est inerte. Et donc, c'est une forme de neutre. C'est cette forme-là de neutre. Il y a aussi une deuxième catégorie de neutre, c'est le référent de genre commun qui désigne un groupe mixte. On a parlé un peu plus tôt, Guillaume a parlé un peu plus tôt du masculin qui l'emporte sur le féminin. Vous l'avez sûrement pas mal entendu. Et oui, pour désigner un groupe, dès qu'il y a un premier élément masculin, le tout est alors désigné par le masculin. Par exemple, là, autour de la table, on serait donc des animateurs, et pourtant Guillaume est en minorité. Après, on a aussi, dans une troisième catégorie, les référents de genre inconnu. Et là, concrètement, c'est quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas comment l'appeler. En français, on a le « on », mais qui reste toujours très vague. Par exemple, « on a cambriolé ma maison » parce qu'on ne sait pas si c'est un cambrioleur, une cambrioleuse. Voilà. Par exemple, en anglais, pour reprendre ce qu'ils ont déjà en place, ils ont le « they », qui va pareil désigner comme ça quand on ne connaît pas la personne. Et enfin, la dernière catégorie neutre dont on peut parler, c'est les référents non binaires. Et donc là, ça va être pour une personne, du coup, qui ne s'identifie pas comme homme ou femme. Donc, par exemple, une personne à genre ou toutes les personnes qui vont se considérer entre les deux, par exemple. Là, du coup, j'en parlerai un peu plus tard, mais en anglais, ils ont par exemple « they » qui peut être utilisé à cette utilisation-là, mais nous, on n'a pas vraiment quelque chose déjà en place en français. Et donc, du coup, face à toutes ces problèmes-là, face à toutes ces utilisations neutres, il faut du coup trouver des solutions. Alors, on peut trouver des solutions, il y en a plusieurs qui sont proposées aujourd'hui. Et par exemple, quelque chose dont les gens peuvent parler et qui est, j'en parlerai à la fin, utilisé dans notre langue, c'est l'utilisation d'un X en fin de mot. Pour commencer de manière très concrète, on dirait du coup français, française et français AIX à la fin. Et du coup, ça, ce serait la forme neutre. Donc, pour désigner par exemple une personne qui ne veut pas utiliser le genre féminin ou masculin, ou quand on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple. La prononciation, l'ajout du X, s'aligne sur la forme masculine. Comme ça, ça garde le mot le plus simple possible. C'est un principe qu'on appelle l'économie linguistique. Et en fait, c'est ce qui permet que la chose reste le plus facilement possible dans la langue. Et un des problèmes, ce serait du coup tous les mots qui finissent déjà par un X. Tous les adjectifs, comme par exemple « doux », curieux, jaloux, radieux, faux. Il y en a d'autres, je vous laisse en trouver. Et donc, du coup, pour cela, on utiliserait un Z, en fait, à la place, pour remplacer le X, pour garder une forme neutre. Alors, évidemment, une des limites de ce système-là, c'est la barrière de l'oral. J'ai dû vous épeler français plutôt avec un X à la fin, parce que même si ça se voit tout de suite, c'est assez évident qu'il y a un changement à l'écrit. À l'oral, ça ne se prononce pas, et du coup, ça a créé un écart entre l'écrit et l'oral. Encore un, alors qu'on a déjà beaucoup ça en français, c'est un problème qui revient souvent sur l'orthographe, sur l'écriture du français. Donc, voilà, c'est un des obstacles à l'utilisation de cette solution-là. Et comme je vous disais, j'ai pourtant un exemple d'utilisation. Et en fait, c'est un exemple même qui est utilisé dans deux langues. C'est le mot « latinx ». Vous le savez sûrement, aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes d'origine latine qui vivent et du coup qui vont parler anglais et espagnol en même temps. Forcément, ça crée des frictions, on va dire, entre les deux langues. Et notamment le fait qu'en espagnol, pour parler donc, des personnes d'origine latine, on va dire latino, latina. Et du coup, il y a eu la recherche comme ça d'un terme qui serait neutre. Déjà pour parler, par exemple, d'un groupe, mais aussi, comme on parlait plus tôt, pour parler des personnes qui seraient non-binaires, par exemple. Et du coup, c'est là que le mot « latinx » a été utilisé. Donc, ça s'appelle « L-A-T-I-N-X ». En anglais, du coup, il y a la prononciation du « X » à la fin. Et c'est déjà utilisé, alors peut-être pas couramment, mais déjà dans les cercles militants anglophones, c'est un terme qui revient très régulièrement. Une autre solution, ce serait du coup la création d'un nouveau système. Alors là, du coup, je vais m'appuyer sur la grammaire du français inclusif qui a été écrite par Al Ferhat et qui propose en fait la création d'un système AL, A-L. En fait, l'auteur propose une variation pour les pronoms neutres, le AL, donc la création d'un nouveau pronom qui donne son nom au système, du coup, pour présenter simplement là où aujourd'hui on utilise il, celui, un comme pronom, donc le pronom personnel sujet, le pronom démonstratif, l'article défini. Je vous le dis, mais évidemment, vous vous souvenez de ce que c'était. En fait, le système AL, du coup, à la place, ce serait AL, SIAL, ou C-AL, et AN, A-N. En subtilisant une voyelle par une autre, on crée quelque chose de nouveau, sans complètement dépayser. D'ailleurs, dans le livre dont je vous ai parlé, l'auteur présente une grammaire qui est très détaillée, très complète pour l'utilisation de ce système-là. Je résume ici rapidement, parce que sinon, ce serait vraiment très complexe. Mais surtout, si le sujet vous intéresse, essayez de mettre la main donc, sur la grammaire du français inclusif. C'est vraiment intéressant. L'auteur propose aussi de créer une variation neutre des noms en faisant l'ajout d'un nouveau suffixe, en essayant encore une fois de reprendre le « a », en prenant des suffixes qui existent déjà dans la langue et du coup qui ne choqueraient pas trop à l'oreille. Pour vous donner un exemple, écrivain, écrivaine et du coup écrivane, la forme neutre. Ou professeur, professeur avec un « e », et professeur, avec A-I-R-E à la fin. Ou un exemple un peu moins sympathique, assassin, assassine, assassin. Et en fait, l'auteur propose l'utilisation du A, tout simplement parce que, déjà pour s'opposer au il et elle qui utilisent donc un I et un E, utiliser une autre voyelle, et aussi le A, c'est la voyelle la plus commune en français, donc autant l'utiliser. De manière plus générale, la création de nouveaux pronoms, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, déjà par exemple dans le monde anglophone. Il y a déjà beaucoup de personnes non-binaires ou à genre qui utilisent ZZM, j'en ai parlé un peu plus tôt, qui est un pronom qui avait déjà été utilisé historiquement en neutre singulier. Ça avait un peu disparu et ça revient maintenant. Il y a aussi beaucoup de créations de pronoms qu'on regroupe sur le terme néopronouns, les néopronoms pour faire le français. Et plutôt que dire la déclinaison masculine, par exemple, c'est he, him, his, donc avec le possessif à la fin et les deux pronoms au début. On peut trouver, par exemple, des gens qui vont utiliser ze, her, his ou ze, them, their. Les détracteurs à l'écriture inclusive sortent souvent, c'est pas naturel, personne dit ça. Le neutre, par exemple, c'est quelque chose qui peut s'implanter progressivement dans la langue. Et c'est pour ça que c'est intéressant de m'en finir sur un exemple, je pense, le hen suédois. Alors, je le précise tout de suite, je parle pas suédois, j'ai jamais étudié le suédois, donc là, la prononciation est à prendre avec des pincettes. Il y a un docteur en langue nordique, suédois, Rolf Dunas, qui a écrit en 66 un article où il propose le pronom « hen » qui remplacerait la formule « han, heller, hon », il ou elle en français, qui trouvait un peu longue et lourde à placer dans les textes. En fait, le terme passe assez inaperçu pendant un moment. Au début des années 2000, ce terme-là entre progressivement dans l'usage, avec quelques polémiques, hein, il ne faut pas s'imaginer non plus un voyage tranquille. En 2015, l'Académie suédoise, qui décerne les prix Nobel d'ailleurs, intègre « hen » dans son dictionnaire pour désigner des personnes sans considération de sexe ou de genre. C'est une évolution qui a pris du temps. Hein, ça fait du coup de 66 à 2015, ça fait une cinquantaine d'années, mais qui est donc possible. On peut peut-être espérer ça sur un des pronoms français aussi, par exemple le petit « yel » qui commence à être utilisé aussi en français.
Merci Axel. Alors maintenant, c'est à ton tour, Guillaume. Tu es de retour pour déconstruire nos idées reçues sur les fautes d'accord.
À qui la faute ?
Le masculin l'emporte sur le féminin. Une règle de grammaire que nous apprenons tous dès le CP. Elle n'a pas toujours existé. Elle a été mise au point au XVIIe siècle par l'Académie française dans le but de masculiniser la langue, comme j'en ai parlé plus tôt. Parce qu'à cette époque, la supériorité masculine va tout simplement de soi. Bourg, prêtre jésuite grammairien, biographe et apologiste français, dit en 1675 « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. » Et Nicolas Beauzée, un grammairien français membre de l'Académie française, complète en 1767 « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Cette règle ne s'impose en pratique qu'à la fin du 19e siècle avec la généralisation de l'école primaire obligatoire. Remplacer le masculin l'emporte sur le féminin par l'accord de proximité. Il se peut même que nous l'employons déjà sans nous en rendre compte. En vérité, le masculin ne s'impose naturellement qu'en cas d'accord de proximité. Quelques exemples dans la littérature. Donc je vais réutiliser l'exemple « Ce peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges ». Ou bien « Ce soupçon se répandit dans tout le camp » et y excita des plaintes et un mécontentement général. Nous n'allons pas remplacer « ouverte » par « ouvert », cela donnerait « ce peuple a le cœur et la bouche ouvert à vos louanges », ça sonne un petit peu bizarre, ou alors « général » par « généraux ». Ce soupçon se répandit dans tout le camp, y excita des plaintes et un mécontentement généraux. Pareil, ça fait aussi un petit peu bizarre à l'oreille. Et la gêne est telle que la plupart des enseignants et enseignantes conseille dans ce cas de tourner la phrase autrement, donc c'est-à-dire de mettre le masculin au plus près du terme qu'on doit mettre au masculin pluriel. C'est pour cela que l'accord de proximité est plus naturel, qu'il passe presque inaperçu. Dans un exemple contemporain, on pourrait dire « les auteurs et autrices présentes vont signer leur livre » ou bien « les autrices et auteurs présents vont signer leur livre ». D'autres formules courantes relèvent aussi de l'accord de proximité, comme « il aurait bien besoin d'un ou d'une assistante ». On ne va pas dire « il aurait bien besoin d'un ou d'une assistant ». Aujourd'hui, ce qui pourrait poser problème est si le dernier terme exprimé est au singulier et qu'il est suivi d'un verbe conjugué. Nous hésitons à le mettre au singulier, comme avec les premiers exemples donnés précédemment. Mais il est possible d'accorder uniquement au genre. Par exemple, « Martine et Jean sont satisfaits » ou « Jean et Martine sont satisfaites ».
Merci Guillaume. Maintenant, laissons-nous porter par les voix de Chloé Haley dans « Cool People ».
Langue de prune.
Et maintenant, on va prendre le temps de faire un petit bilan de ce qui s'est dit dans l'émission et d'échanger autour du sujet, entre nous, mais bien sûr, vous êtes invités à écouter, si vous en avez envie. Donc, le langage inclusif, ça recouvre plusieurs réalités et ça a plusieurs utilités. La première réalité, c'est une réalité militante, permettre aux personnes de s'exprimer, se désigner, se savoir inclus dans un discours, dans un groupe. C'est donc bien un besoin, une nécessité, que de disposer d'un langage qui nous permet de nous décrire, que ce soit via l'utilisation ou la création de pronoms et d'un vocabulaire neutre, ou avec une typographie extensive qui permette d'inclure tout le monde, comme avec les écritures inclusives. Donc c'est vrai que pour l'instant, C'est quelque chose qu'on voit plus dans le milieu militant, mais je ne sais pas, vous, où, Axel et Guillaume, vous avez pu en voir ou en entendre.
Personnellement, de mon côté, je lis les articles sur le journal Internet Mademoiselle, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui.
Ils utilisent beaucoup aussi le langage inclusif, ou aussi ils vont principalement utiliser des noms féminins pour la lectrice, car ils savent que ça va être majoritairement des femmes qui vont lire ces articles. Mais c'est pas pour autant que je vais pas me sentir je vais pas m'identifier en voyant le mot lectrice. Je vais pas me dire ah non, je suis un homme. S'il vous plaît, mettez le lecteur.
T'as pas fermé la page tout de suite quand t'as lu ça?
Ah non. j'hésitais.
Alors moi, c'est un exemple que j'ai. Récemment, mais c'est plus du coup dans le cadre militant. Ma sœur, elle fait partie d'un collectif féministe. Je ne vais pas les nommer parce que je ne lui ai pas demandé si j'avais le droit de raconter cette anecdote-là. Et sur la discussion de groupe, il n'y a que des femmes, il y a un seul homme. Et l'autre jour, ils étaient en train d'organiser une action en plus sur les violences conjugales. Et l'homme en question est arrivé et a fait « Alors les gars
!» Oh non.
Oh là là.
C'est très mal passé. Voilà, je... Je le dis, hein, c'est oui, non, il s'est fait un peu incendier.
C'est vrai que je trouve que dans la vie courante, ça se développe de plus en plus. Au début, quand j'envoyais des textos en écriture inclusive, les gens comprenaient pas trop. Puis au bout d'un moment, Yel s'habitue et il y a plus de problème.
Oui, c'est une habitude à prendre d'utiliser Yel, même aussi à l'oral de le dire. C'est un petit peu bizarre au début parce qu'on n'est pas habitué, mais bon, faut prendre l'habitude. Puis après, ça arrive.
Les gars aussi, on va pas se mentir, même moi, je le dis toujours. Hein. J'arrive dans une pièce avec ma mère et ma sœur, je dis bon, les gars. Mais,
Ouais. Pardon, vas-y.
Mais c'est vrai que c'est devenu un terme, en fait, familier et un peu détaché de sa vraie signification, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire attention.
C'est vrai que moi, je le prends toujours mal et je fais ma chieuse à chaque fois et je vais dire ah ouais, moi, tu m'inclus pas dans cette conversation? Moi, je dois pas venir.
Quand j'étais jeune, j'étais souvent aussi avec que des groupes de filles. Et très souvent, ils vont dire « Allez les filles, on rentre ». Puis soudain, ils voyaient que j'étais là. « Oh, et le garçon ?» J'allais pas mal le prendre parce qu'on disait « Les filles ». J'étais « Bah oui, enfin, genre, il y en a 10 autour de moi, celles qui gagnent. Enfin... »
Donc on voit que là, on est à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation à défendre l'apparition de nouveaux systèmes, de nouvelles idées pour le langage. Et puis on l'a vu, les grammairiens, les académiciens des siècles précédents, ils ne se sont pas gênés pour attaquer la présence du féminin dans notre langue. Et puis aussi, une langue, on est d'accord là-dessus, je pense, c'est pas statique, c'est pas immuable, c'est pas intouchable. Donc, on peut même dire qu'il en va de la survie du français que de trouver de nouvelles formes d'expression qui correspondent plus à ce qu'on veut dire, à la société qu'on veut. Après, c'est vrai qu'il y a parfois un débat sur les questions un peu pratiques, de lisibilité, de... Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est ce que je disais en parlant du neutre et du X. Je pense qu'un des problèmes principaux, c'est... séparer encore plus le français écrit du français parlé. Ça, c'est, pour moi, c'est une des problématiques que le langage inclusif et que toutes les personnes qui réfléchissent à ça doivent se confronter, parce que c'est vrai que le but, c'est pas de complexifier les choses et de rendre ça encore plus compliqué à apprendre à l'école.
Oui, c'est déjà, mais, si on est dyslexique, par exemple, ça peut amener des soucis. Alors, en plus, si tu ramènes aussi d'autres trucs à mélanger...
Et c'est vrai que sur le côté, par rapport à la dyslexie, on parle souvent du point médian. Et on dit, ouais, c'est rajouter de la complexité. Et c'est vrai, mais en fait, il y a déjà beaucoup de signes typographiques, le point normal, la virgule, etc., qu'on apprend à l'école. Et c'est vrai que si on l'apprenait dès l'école primaire, ce ne serait pas une difficulté bien plus grande. Et s'il est privilégié, le point médian, par rapport aux parenthèses ou aux tirets, c'est parce qu'il rentre dans le gris typographique. Vu qu'il est au milieu de la plupart des lettres, c'est beaucoup plus facile pour l'œil de... à la fois de le repérer et que ça ne gêne pas la fluidité de la lecture. Et donc c'est vrai qu'il y a cette critique-là qu'on entend souvent. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont dire « changer le langage, ça ne va pas changer la société, ça ne va pas changer la vie des personnes opprimées par le patriarcat ». Après, ils ne le disent pas toujours avec cette voix-là. Et pourtant, le langage, ça a une grande influence sur nos représentations mentales. Il y a eu une étude de Pascal Gigax qui montre... que lorsqu'on entend des phrases comme « les musiciens sont sortis de la salle », à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie, et ben, tout le monde a une sensation de surprise quand il y a l'expression « une des femmes ». Parce qu'en fait, l'image qui s'est formée dans notre esprit avec les musiciens, c'est une image d'homme. Donc faire évoluer la langue, ça veut dire qu'on fait aussi évoluer nos représentations mentales et donc possiblement nos comportements après, quoi. Je sais pas vous, quelles sont vos expériences de différence entre avoir entendu un terme uniquement au masculin ou alors au masculin et au féminin. Est-ce que ça a changé des choses pour vous?
Je dois avouer que là, tout de suite, ça ne me vient pas en tête, mais rien qu'avec ton exemple, en disant les musiciens, j'ai tout de suite pensé à un groupe que d'hommes. Dès que tu as dit la fin, j'étais...
En plus,
c'est vrai que, oui, vous pensez,
en plus c'est le genre de métier qui est très... Enfin, il y a oui, beaucoup de femmes, ouais, artistes, etc. Mais je pense que quand on dit les musiciens, on pense tout de suite à un groupe de rock, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup, de, beaucoup d'hommes, généralement. Dans ce qui est le plus connu, donc oui, dans ce qui nous revient le plus facilement.
Et c'est vrai que l'autre jour, je faisais un entraînement de théâtre d'impro. Et en fait, on avait un exercice où on était en train de jouer, on devait raconter notre vie en tant qu'un personnage. Et à un moment, dès qu'on nommait une autre personne, cette personne devait rentrer sur scène. Et en fait, quand c'était des noms de métiers, de fonctions, c'était toujours au masculin. Et parfois, il y avait des personnages vraiment qu'on voyait tout de suite comme féminins. C'était ma mère, ma sœur, etc. Et c'est vrai que moi, je rentrais plus difficilement sur scène quand j'entendais le facteur. Voilà.
Oui, parce que tu ne te sens pas du coup appelée, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que nous, je pense, en tant que femmes, là, je regarde Axel, on a l'habitude de ne pas se sentir incluse dans le discours. Mais je pense que c'est plus étonnant quand ça arrive à des hommes. L'autre jour, en classe, j'ai dit à un groupe d'élèves, est-ce que vous êtes prêtes? Et j'ai un garçon qui a dit, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, lui, c'était un garçon. Et après, je lui ai expliqué, en fait, je dis ça parce que les deux élèves qui ne sont pas prêtes, c'est des filles. Mais je me dis, c'est drôle parce qu'en fait, depuis le début de l'année, je dis très souvent, est-ce que vous êtes prêts? Et il n'y a aucune fille qui m'a fait de remarques.
Oui, si on prend de base, masculin est égal à neutre et on ne pense pas à autre chose. Et dès que ça c'est bouge, ça. C'est tout de suite très...
Il y a quelque temps, j'avais pris rendez-vous avec mon docteur par Doctolib et c'était un rendez-vous à distance. Et en fait, bon, c'était pendant l'été, donc il y a un moment où il n'était pas là et c'était donc sa remplaçante. Et sur Doctolib, alors soit ça ne mentionne pas que c'est une remplaçante, soit je n'ai pas fait attention. J'ai peut-être pas regardé son prénom, quoi que ce soit. Et du coup, ça a décroché. Et en fait, je pensais que c'était un remplaçant, quoi. J'imaginais pas que c'était une femme. Ce qui est assez... Bon, voilà. En ouais, soi, ça change rien, mais...
Ça me fait penser à la blague, justement, du médecin. C'est un petit garçon qui a un accident de voiture avec son père. Et dans l'accident, le père meurt. Et le petit garçon, lui, il est emmené à l'hôpital pour être opéré. Et dans la salle d'opération, le médecin qui va l'opérer dit « Bah non, je peux pas le faire parce que c'est mon fils. » Est-ce que vous savez comment c'est possible?
Ah, oui, moi je vois.
Moi aussi.
Alors, allez-y, expliquez.
Là, c'est la peur de s'expliquer.
Vas-y, toi.
Parce que c'est sa mère qui est le médecin, enfin qui...
C'est ça exactement, ouais. Le médecin est une femme. C'est vrai que si on avait dit la médecin ou la médecine, pas de problème. Et là, souvent, on a l'image du mec.
C'est pas très drôle comme blague.
Oui, bon. Ok, ça fait rire personne. Bon, bah, vaut mieux s'arrêter là. C'est la fin de la première émission de Langue de Prune que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site internet. Et nous reviendrons pour la prochaine émission le mardi 23 novembre à midi. Merci à tous et au revoir.
Au revoir.
Salut.
À plus dans le bus,
à plus tard dans le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le taxi,
à plus tard très vite
dans le cockpit.